France Inter.
Un vénérable escalier à la rampe décoré de chrysanthèmes en fer forgé mène à l'illustre laboratoire de paléontologie que dirige au muséum le professeur Camille Arambou. Comme de monstrueux trophées de chasse, se succèdent des vestiges d'une faune puissante, rien d'autre à interroger que des ossements, voire de précaires empreintes.
Cette archive de 1953 plante le décor du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Plus précisément, dans sa somptueuse mais vieillissante galerie qui date du 19e siècle. Des travaux de rénovation ont d'ailleurs été entamés, mais c'est désormais au tour des résidents du muséum de se faire faire une petite beauté. À commencer par l'un des plus emblématiques, le gigantesque mammouth qui trône dans la salle de paléontologie. On l'appelle le mammouth de Durfort, du nom du village gardois où il a été découvert en 1869. Il s'agit de l'un des plus grands et des plus complets fossiles de mammouth connus au monde. 6 mètres de long, 4 mètres de haut, un animal qui de son vivant faisait environ 10 tonnes et ce n'était même pas un adulte. Depuis son arrivée au musée en 1898, le squelette de ce mammouth n'a jamais eu droit à une restauration devenue aujourd'hui nécessaire. Certains os sont même fissurés.
Même s'il n'a pas bougé, il subit les aléas du temps. Déjà des variations importantes d'hygrométrie et de température dans la galerie. Il est très très sale aussi. En effet, il est endommagé.
Le Muséum d'Histoire Naturelle a profité de cette restauration pour intégrer une dimension scientifique au projet. Des fouilles ont été relancées dans le Gard, sur le lieu de la découverte du mammouth. L'idée d'en savoir plus sur son âge, son environnement et les circonstances de sa mort. C'est une immense enquête pour les chercheurs, mais une enquête sur des faits qui remontent à plusieurs centaines de milliers d'années. L'âge du mammouth serait compris entre 700 000 et 1 200 000 ans.
Ah purée !
Non,
résiste
quand je te dis qu'il faut creuser une côte.
Une côte ou une
côte ou une vertèbre ?
Attends.
Faudra tamiser, hein, ça.
Ouais, c'est une côte.
Ce reportage a duré un an, ce qui ne pèse pas grand-chose dans la vie de cet animal. Il a commencé au printemps dernier, lors du démontage du mammouth. Ensuite, nous avons suivi les différentes étapes de la restauration, le transfert des ossements fossiles, leur consolidation et le repositionnement correct du squelette. Son retour dans la galerie de paléontologie est prévu pour ce mercredi, 28 juin. Le mammouth de Durfort retrouvera alors l'environnement qui est le sien depuis 130 ans, à savoir son public de tous les âges. Le mammouth de Durfort, un géant fossile restauré. C'est un reportage de Sophie Becherel avec Johanna Gabric à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au musée.
Merci. Qui êtes-vous ?
Je suis Cécile Collin. Je suis la responsable de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Et je suis aussi la chef de projet du chantier de restauration mammouth. Le grand chantier, la grosse journée, ça a bien commencé. Les quatre pattes sont déposées. Alors là, on est au laboratoire de paléontologie. Alors, encore un petit étage. C'est bon. Voilà, l'effervescence du chantier. Donc là à l'œuvre en fait il y a les restaurateurs sur le chantier. Donc notre mammouth là il n'a plus de pattes. Donc hier il y a eu l'échafaudage de montée. C'est la première fois grâce à cet échafaudage qu'on approche aussi près du spécimen. Et voilà, ce spécimen-là, il est dans la galerie depuis 1898 et on n'avait jamais été aussi près parce qu'il est très grand, il est très haut.
Vous pouvez nous rappeler ses dimensions ?
Il mesure 3,80 m au garrot et presque 4,30 m au sommet du crâne. Donc c'est un très très grand mammouth, un mammouth meridionalis. C'est le plus grand en fait qu'on connaît quasiment. Chaque os, il est maintenu par des colliers, donc il fallait dévisser. Alors là, on a eu beaucoup... Enfin, on s'attendait à devoir peut-être scier certaines vis parce que trop grippées depuis 1898 et jamais bougées. Donc tout s'est dévissé de façon impeccable. Il y a juste eu un petit pas de vis à refaçonner pour mettre le tournevis, mais franchement, tout s'est super bien démonté. Et on voit, voilà, par exemple, de plus près, toutes les fissures. Là, c'est plutôt sur des décollements de matière qu'on a travaillé. On voit l'os qui est très, très friable.
Des fémurs, c'est quoi ?
Alors là, on a du fémur, du tibia, de la fibula, de l'humérus. Donc là, c'est essentiellement les os longs. Là, c'est posé sur palette, calé. Alors, une première consolidation là, avec les petites bandelettes, un calage avec de la mousse. Ils ont enveloppé avec un film plastique. Et les palettes vont partir au fur et à mesure, voilà, tous les matins, là, demain matin, mercredi, jeudi, vendredi, de 7h30 à 10h, avant que la galerie ouvre au public, ils vont transférer l'ensemble des palettes jusqu'à l'atelier du muséum où va se faire la restauration.
Nous sommes dans la galerie de paléontologie et d'évolution, en surplomb en fait, sur ce balcon magnifique du 19e siècle en fer forgé. Et on aperçoit au bout de la galerie le mammouth de Durfort, enfin ce qu'il en reste puisqu'il est en cours de démontage, dans son espèce de cage métallique, c'est-à-dire l'échafaudage. Et pour nous en parler, on va retrouver Régis De Bruyne, qui est paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Qu'est-ce que vous ressentez en le voyant se démonter pièce par pièce ?
Ben là, il est particulièrement bizarre parce qu'en plus, il a perdu ses quatre pattes, ce qui fait qu'il a un peu un air de baleine ou de sirénien avec une tête d'éléphant, quoi. Ouais, on l'imagine bien nageant éventuellement, là, mais on l'imagine plus du tout se promenant ni dans la forêt, ni dans la prairie. Donc ouais, on va pas dire qu'il a perdu de sa superbe, mais c'est surprenant de le voir comme ça. Surtout que je pense qu'effectivement, ça fait 150 ans qu'il n'avait pas eu cet air-là. On est les premiers à le voir sous cet angle. Donc effectivement, là, on commence à toucher les parties les plus fragiles et les moins bien connues également. Parce que les plus inaccessibles pour nous, il faut s'imaginer que moi, ça fait 25 ans que je rêve de pouvoir l'approcher ce crâne, mais j'ai jamais eu le droit parce qu'il aurait fallu un échafaudage comme celui qui est monté présentement pour atteindre ces 4 mètres en haut de la tête, quoi. Et puis, il était déjà trop fragile pour être même mesuré, manipulé par un quelconque chercheur. Donc finalement, on l'approchait que de loin. Donc là, le démontage, il va nous permettre d'y avoir accès de façon inédite. C'est un spécimen extrêmement impressionnant parce que appartenant à une espèce de mammouth qui est finalement beaucoup plus grande que celle que l'homme des cavernes a fréquentée. Il ne faut pas vraiment pas s'imaginer que ce mammouth-là, on le côtoyait quand on a peint les grottes ornées au Magdalénien. Pas du tout. Le mammouth qu'on croisait à l'époque, c'était le mammouth laineux, beaucoup plus récent, mais aussi beaucoup plus petit que le mammouth de Durfort. Le mammouth de Durfort, il pouvait atteindre, enfin, il atteignait plus de 4 mètres à l'épaule et son espèce pouvait atteindre quasiment 5 mètres pour un animal qui pouvait allègrement sans doute dépasser les 10 tonnes. Donc on est vraiment dans le géant de la famille avec, on va dire, c'est finalement ses tout premiers mammouths d'Eurasie et d'Amérique du Nord qui étaient plus grand, plus généraliste dans le régime alimentaire, mieux adapté à un environnement finalement beaucoup plus tempéré que les mammouths ultérieurs. On est à une période en fait avant le démarrage de la période glaciaire qui va marquer l'avènement des mammouths laineux qui arriveront ensuite. Donc on est dans un environnement en fait beaucoup plus tempéré, voire subtropical dans certains coins de l'Europe que ce que l'Europe va connaître dans le million d'années qui va suivre.
Un crâne étrange, une démarche incorrecte, un cou trop long, une bosse sur le dos. Le mammouth de Durfort interpelle les scientifiques. Pourquoi toutes ces petites erreurs paléontologiques ? Ce mammouth géant est supposé avoir vécu entre 700 000 et 1 200 000 ans. De type méridional, il n'a pas été dessiné sur les parois des grottes préhistoriques. Le spécimen du muséum est l'un des plus complets au monde. Cécile Collin, vous êtes donc la responsable de cette galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on aboutit aujourd'hui au démontage et à la restauration future de ce mammouth de Durfort ?
Parce que c'est un spécimen emblématique de la galerie. Il est là depuis l'inauguration. C'est un spécimen qui a été trouvé en France, dans le Gard. Et en effet, il est endommagé. Alors, il est endommagé pourquoi ? Alors, la première raison, c'est les conditions de découverte à l'époque, donc découvert en 1869. La fouille a été très longue pour diverses raisons et les os fossiles étaient déjà très friables, très cassantes. Et la fouille a duré 3 ans, 4 ans. Il a été à l'air libre pendant au moins 2 hivers. Donc tout ça, ça a vraiment endommagé à l'origine l'os fossile. Il arrive après au Jardin des Plantes. Il est monté une première fois dans la salle dite de l'éléphant qui est sur le campus Buffon. Il est redémonté et réinstallé dans un autre bâtiment dans le musée provisoire de paléontologie presque 10 ans après, 1885. Et ouverture de la galerie encore presque 10 ans après, il est redéplacé. Donc voilà, il a été monté et redémonté 2 fois pour 3 emplacements différents. Donc ça, c'est pareil. À chaque fois qu'on manipule, à chaque fois qu'on monte, ça fragilise les os. Et voilà, ce mammouth-là, depuis 1898, bah, maintenant, dans la galerie, alors même s'il n'a pas bougé, il subit les aléas du temps. Déjà des variations importantes d'hygrométrie et de température dans la galerie, des variations de luminosité qui, si ça ne travaille pas forcément, ça n'endommage pas forcément l'os fossile, mais ça endommage toutes les anciennes restaurations. Il y a beaucoup de fissures qui ont été comblées avec des résines naturelles ou des résines artificielles. Il y a pas mal de petites bandelettes de tissu qui ont été mises pour consolider l'os. Tout ça, voilà, la luminosité abîme vraiment beaucoup ces comblements. Il est très très sale aussi, c'est ça aussi qui est important, et c'est une saleté qui est due au chauffage, au charbon, donc il y avait des fumées. Paris a quand même été beaucoup plus pollué, une belle crasse noire qui s'est déposée un petit peu partout, et on voit voilà, depuis l'ouverture toutes les petites mains qui sont venues tripoter, et on voit vraiment là, une couche de gras sur 20 cm à portée de main. Voilà, donc la décision est prise de restaurer.
Donc, vous choisissez le mammouth de Durfort et là, voilà. Vous dites le muséum n'aura
alors,
pas les moyens.
L'idée, c'était de lancer aussi un appel aux dons pour sensibiliser aussi le public, quoi. Et c'est un appel aux dons, mais qui a été hyper relayé et les gens ont été hyper généreux, quoi.
Combien avez-vous récolté ?
Il y a eu 160 000 euros en 3 mois.
Le muséum a décidé d'offrir une contrepartie et propose à chaque contributeur, à partir d'une certaine somme, de parrainer un os du mammouth de Durfort. Ce sera un parrainage virtuel et les os attribués à chaque donateur seront inscrits sur un squelette en 3 dimensions, consultable et observable virtuellement sur le site du muséum.
Une fois démontées, les pièces sont déplacées pour être restaurées. Des caisses spéciales sont alors préparées, les ossements emballés, des plus petits aux plus volumineux, comme le crâne qui est en quelque sorte le gros morceau.
Sur mesure, hein, quand même, que vous y faites.
Pas de choix.
Cela peut paraître anecdotique, mais pour ce déménagement, il n'y a qu'un seul étage à descendre. Sauf que, et c'est un très gros risque au regard de la délicatesse des pièces à transporter, il faut emprunter un escalier en bois. Sophie Becherel et Johanna Gabric assistent à ce moment particulier.
Donc là, vous vous équipez.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous mettez ?
Un harnais de portage. Ça permet de répartir le poids sur les épaules plutôt que sur les bras. On a 450 kg, on va être 6, mais sachant qu'on a beaucoup d'escaliers, bon, on va dire à partir de 100 kg par personne.
L'organisation pour la descente de l'escalier, elle est instinctive ou bien il y a des porteurs
non,
avant
toujours d'accord, on se met toujours d'accord, mais les grands derrière, plus petits devant, mais on va tous à la même vitesse de toute façon. S'il y en a un qui nous dit que je ne peux plus porter, il faut s'arrêter, on s'arrête. Mais on fait toujours attention aux hommes, plus qu'à ce qu'il y a dans la caisse. Parce que 450 kg qui dévalent un escalier, ça fait des dégâts.
On a que la mer.
Morgane, t'es prêt ?
Allez.
3, 1, 2.
1. Oh, ça va. Oh, ça va. Je suis pas centré là.
Oh, on est posé là.
Allez, on est bon. 3, 2, 1, go.
Je vais serrer la barrière s'il vous plaît.
Ouais, 3.
Une fois calé dans sa caisse, le crâne doit être descendu au rez-de-chaussée de la galerie de paléontologie. Pas d'ascenseur ici. Alors, c'est à dos d'homme, ou plutôt à la force des bras, que cette délicate opération commence. Le fossile doit emprunter l'escalier de bois ciré, tant de fois monté par les visiteurs du musée. Un escalier qui tourne. 6 hommes se positionnent et réfléchissent à la meilleure tactique.
Allez, on y va.
1, 2, 3.
que les pointes, c'est moi d'abord.
Cécile, vous surveillez le déplacement de ces pièces de la galerie jusqu'à l'atelier de restauration comme si c'était l'héritage de votre arrière-grand-mère.
Ben oui, en fait, c'est mes verres en cristal, c'est mon objet précieux de la galerie. Chaque os fossile est très lourd, très fragile, car très endommagé. Donc voilà, chaque mouvement pourrait être le moment d'une cassure, d'une fêlure, d'un os.
On peut poser, on pose, direct.
Même si je suis stressée, je fais très confiance à l'équipe qui est là et on voit bien qu'ils ont de la maîtrise, du sang-froid et beaucoup de force.
Celle-ci est plus lourde, hein.
Un peu.
Une vis qui est tombée. Une vis sciée. Mais qu'est-ce que c'est?
Ah, mais tiens.
Mais dis donc.
Pardon.
On m'a dit pour celle-ci.
Oui, oui. Ah, on a avoué toutes les vis sciées, hein. Donc là, il n'y a pas de...
Je sais.
Y a
je
pas
de
tout noté. Bon, je le glisse à l'intérieur. Pardon.
Comment ça s'est passé?
C'était long. Il fallait prendre son temps. Bon, c'est juste physique, hein.
La physique quand même, vous qui étiez devant. Hein.
Ouais. Bah oui, surtout que normalement c'est mieux si tout le monde est en harnais. On est tous équilibrés, on peut tous pousser sur la caisse. Bon voilà. L'important c'est qu'elle soit descendue, que personne ne soit blessé.
Ouais. Une fois chargé dans le camion, direction le hangar de taxidermie de l'autre côté de la rue à 100 mètres de là. Un espace y a été spécialement aménagé pour accueillir le mammouth.
Tu peux redresser. Tout droit.
Oh, les vêtements, ils doivent être
comme ça. Ah, là, tu peux, hein, regarde, attends. Bouge pas, cherche un peu. Tu peux le monter un cheveu ou pas? Attends, enlève ton doigt de là. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, là, on a de l'espace, hein.
Ouais, limite, hein.
C'est short.
Ça va le faire, je pense.
Après, tu peux essayer de le descendre un chou, moi, j'étais large, hein, dans mon tracé. Ouais, ça va le faire.
Je m'appelle Anne-Laure Goron, je suis restauratrice de sculptures, conservateur-restaurateur d'œuvres d'art. Je ne restaure pas des mammouths tous les ans, c'est sûr. Mais voilà, ce sont des problématiques, les mêmes problématiques qu'on va trouver sur les petits objets en os ou en ivoire. Mais de toute façon, on a toujours des cas particuliers à chaque fois. C'est rare qu'on ait déjà vu le même problème de restauration avant de l'avoir démarré. Donc, faut tout le temps s'adapter et trouver des solutions. Restaurer un objet si vieux, ça ne vous impressionne pas? Vous savez, on en restaure, on restaure des objets très très vieux, très souvent en fait. Alors, ils font peut-être pas 2 millions d'années, mais quoique là, on est repassé à 1 million d'années finalement. Plutôt 1 million d'années. Donc, ça m'arrive pas tous les 4 matins, c'est sûr, mais en fait, c'est la même. Enfin, c'est pas ça qui va être le plus important, quoi.
J'ai beaucoup dégagé. Hein.
Ouais, je vois ça. C'est génial.
Mais en tout cas, ouais, j'ai énormément enlevé. Là, j'ai resculpté aussi là-dedans parce qu'elle était dans. Il l'avait mis dans la continuité. Du coup, j'ai imité celle-là parce D'accord. que c'était un peu ouais. bizarre.
Les dents, c'est vraiment génial. Écoute, ça a plus rien à voir. C'était,
oui.
c'était très très moche quand même.
Mais oui, c'était très, très moche.
C'était. On voyait à peine les lames. On voyait pas du tout l'extrémité postérieure des dents.
Non, ce qui est dingue, c'est que tout ça était noyé dans le plâtre. Quoi.
Et donc, ouais. tu vois, hop, là, je suis en train de reconstituer un peu, enfin, de reconstruire ça là.
Voilà, je l'ai repris un petit peu, c'est vachement moins creusé. L'os, il revient, il remonte vachement alors qu'il est censé repartir un peu en creux. Donc c'est pour ça que là, j'ai complètement arasé parce que cette crête, elle n'existait pas en fait. Il l'avait déplacée.
D'accord.
Mais ça, bah, je suis bien embêtée.
Moi, je suis Stéphanie Nisol, donc je suis restauratrice du patrimoine. Au moment de sa découverte, forcément, on est en 1870 quelque chose. Donc, ils n'avaient pas du tout les mêmes moyens. Puis, il y avait aussi des problèmes de droit, de qui appartenait le terrain, de à qui appartenait le mammouth, de qui allait avoir les capacités de le gérer. Donc, apparemment, ils en ont trouvé un premier qu'ils n'ont pas du tout su gérer, qui s'est un peu détruit sur place. Et le deuxième, ils ont compris qu'il fallait des personnes compétentes, des moyens un peu plus sophistiqués que ce qu'ils avaient pu anticiper. Donc, c'est là qu'ils ont contacté le musée de Paris et que la personne personne compétente à l'époque s'est mise à l'œuvre pour trouver, entre guillemets, des recettes qui pourraient permettre de sauver ces vestiges. Mais il s'est passé pas mal de temps, il s'est passé quasiment 4 ans entre la découverte et le moment où cette personne est intervenue. Et donc, apparemment, le mammouth est resté avec quasiment la moitié de tous les os à l'air libre pendant 2 hivers. Donc, il s'est pris des gelées, les hivers, les intempéries, les orages. Et donc, il s'est quand même pas mal abîmé. Donc, quand les gens qui finalement bossaient pas si mal à l'époque, parce qu'avec les faibles moyens qu'ils avaient, donc ils ont bien vu qu'il fallait consolider, ils ont appliqué en surface un mélange à base de blanc de baleine.
Le blanc de baleine ?
C'est une substance très particulière dans une zone très particulière du cerveau de la baleine. Avec un ajout de, je sais plus ce qu'ils avaient mis dedans, mais de la cire, de la colophane, c'était toute une recette qui a l'air d'être pas mal, parce que là, on est 150 ans plus tard, et on voit que quand on a l'os qui a donc subi ce traitement au blanc de baleine, il est dans un bon état, c'est vraiment pas si mal que ça. Et c'est beaucoup mieux d'ailleurs que les os qui ont été traités plus tard, parce que là, pareil, la recette du début du XXe siècle, ils mettaient à fondre dans des alcools les premières pellicules photographiques qu'ils mettaient en solution, et ils appliquaient cette espèce de premier plastique, d'ancêtre du plastique solubilisé, il l'appliquait sur les os. Et là, c'est beaucoup moins pérenne. On récupère quelque chose de plus altéré. Alors que finalement, ce blanc de baleine était une solution plus satisfaisante pour ceux qui y arrivent 150 ans plus tard.
Ah oui, c'est très bruyant. Je suis avec une fraise assez agressive et ça permet de faire descendre le niveau de plate sans générer trop de vibrations sur l'objet. Ah oui, il y en a énormément. Je pense que là, on va être à quasiment 10 cm d'épaisseur. C'est énorme, hein, c'est énorme.
Régis de Bruyne, où en est le chantier de cette restauration du mammouth de Durfort ?
Beaucoup de surprises au cours de ce chantier, des bonnes, des moins bonnes ?
Beaucoup de surprises, des bonnes et des moins bonnes, elles sont toutes scientifiquement favorables, c'est-à-dire que tout ce qu'on découvre au cours de ces travaux de restauration sont des plus par rapport à ce qu'on savait de ce mammouth. Après, sont parfois pas des très bonnes surprises pour la restauration elle-même, c'est-à-dire que c'est du travail en plus. On se rend compte qu'il y a des morceaux où effectivement il y a beaucoup de reconstruction. Là, il y a actuellement le travail sur un humérus, qui est donc l'os du bras, qui a été... Patte avant droite, oui. Cet os, il a été très largement retravaillé au moment du premier montage du mammouth. Et donc il y a énormément de choix et de morceaux de plâtre qui ont été mis, qui sont difficiles à comprendre, si vous voulez. Même la recomposition des morceaux d'os qui ont pu être collés n'est pas forcément très satisfaisante. Donc là, on s'arrache un peu les cheveux parfois. Enfin, les restaurateurs, en l'occurrence, s'arrachent les cheveux. Ils me font intervenir ponctuellement pour leur donner un avis, mais... On est pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des morceaux qui sont manquants, pour lesquels il faut bien inventer la portion manquante, effectivement. Alors, on a des référentiels, mais on sait qu'on ne sera jamais forcément à l'identique de ce que ça pouvait être du vivant de l'animal.
Faut réfléchir à l'option B pour la côte.
Au-delà de la restauration des os, devenus friables ou recollés sans toute la rigueur nécessaire, ce sont les socles qui auront donné le plus de fil à retordre aux restaurateurs. Garder la structure métallique du 19e siècle était un impératif exigé par les monuments historiques. Mais certaines des armatures en métal, soutenant chaque os, se sont avérées très abîmées. Le chantier en a été allongé de 4 mois.
Alors, je m'appelle Morgane de Saint-Rapt, je suis le chef d'atelier et je suis le responsable soclage sur le mammouth de Durfort.
Donc là, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui ?
Bah là, on voit la structure, la colonne en fait du mammouth, avec donc les différents soclages des vertèbres et des côtes. On va dire que là, on remet en forme les socles, parce qu'ils ont été mal manipulés, ou avec le temps, en fait, comme il y a eu pas mal de restaurations, ils ont été tordus. Donc on essaie de retrouver quelque chose de vraiment d'anatomique, quoi. Quelque chose qui ressemble vraiment à quelque chose de vraiment morphologique par rapport à l'espèce, quoi.
Et c'est compliqué ?
C'est assez dur, parce que c'est vrai que c'est plus simple de partir sur un soclage qu'on crée nous-mêmes que de retravailler quelque chose qui a déjà été fait.
Comme il va falloir corriger aussi sa position, hein, puisqu'il était plutôt monté comme un éléphant et pas comme un mammouth, comment vous allez résoudre cette épineuse question ?
Alors, effectivement, on va surtout en fait jouer sur la hauteur du bassin et la hauteur du cou. Le bassin va être légèrement recoupé pour pouvoir en fait avoir les quelques centimètres en trop, et donc l'inclinaison qu'il nous faut, qui est celle d'un mammouth.
Là, l'équipe semblait dire que positionner chaque côte, c'est un puzzle compliqué.
C'est vrai, parce que, alors, Il y a eu des restaurations, il y a certaines qui n'existent pas, qui sont faites en bois. Donc on essaie de retrouver quelque chose qui soit cohérent en fait. C'est assez compliqué parce que bah, forcément, à force de restauration, certaines ont été inversées. Certaines vertèbres, d'ailleurs c'est bien le questionnement qu'on a actuellement, c'est savoir est-ce que les vertèbres sont au bon endroit. C'est vraiment un puzzle, quoi. Il faut vraiment tout reprendre au fur et à mesure.
Bon, allez, direction l'étage pour voir Florent Goussard qui a réalisé la numérisation du spécimen.
Moi, mon travail sur ce projet, la première partie, ça consiste à numériser entièrement en trois dimensions le squelette une fois restauré pour pouvoir le remonter entièrement virtuellement. Le second volet, ça a été de traiter les données qu'on a pu obtenir en tomographie par rayon X sur le crâne du mammouth. Donc le principe de la tomographie à rayon X, c'est une technique d'imagerie. Grâce à ces rayons X, on va être capable de traverser la matière. Donc l'objectif sur ce crâne, c'était de comprendre un petit peu la composition, à savoir dans quelle proportion elle est constituée de matière originale ou de restauration, c'est-à-dire du plâtre, du métal, du bois, un petit peu tout ce qu'on peut imaginer. Donc l'objet, ça va être là, non pas de traverser la matière, mais de capturer la géométrie de l'objet, donc la forme extérieure de l'objet. Donc pour ça, j'utilise un appareil de scanner, ce qu'on appelle le scanner surfacique, basé sur une technologie de flash lumineux. Voilà, tac, voilà.
C'est au tomographe du CEA, à Cadarache, qu'il a fallu envoyer le crâne. C'est la seule installation en France qui pouvait accueillir un objet si gros. Pour numériser tous les autres os fossiles, le muséum possède un appareil portatif étonnant. Grand comme un sèche-cheveux, il permet d'obtenir une reconstitution virtuelle ultra précise en trois dimensions.
Donc je balaye un peu l'objet en étant à peu près en me tenant à peu près à 70 cm de lui, et je le balaye comme ça dans tous les sens, et en temps réel, sa géométrie va apparaître sur mon écran d'ordinateur. Donc l'idée, c'est d'essayer vraiment d'avoir tout l'objet, hop, et à la fin, d'utiliser ces différents scanners pour reconstituer l'objet en 3D. Dès qu'il y a une différence de teinte, on peut s'attendre à ce que ça soit un changement de matériau. Là, j'ai du matériau très dense, etc., etc. Et donc, ça donnait ça. En termes d'os original, voilà ce qu'on a. Donc, on n'a pas grand-chose.
Ça n'est pas beaucoup.
Ça n'est pas beaucoup. Alors, il n'y a pas de surprise, il y avait du plâtre dans le crâne, on le savait. Ensuite, ça c'est. Il se trouve qu'un crâne de proboscidien, donc d'éléphant ou de mammouth, c'est extrêmement pneumatisé, c'est plein de vide en fait. Ce qui permet de l'alléger énormément par rapport à sa taille, ce qui est toujours pratique.
On dirait des alvéoles d'abeilles.
Exactement. Oui. Donc du coup, c'est pas illogique que d'un point de vue de fossilisation, suivant les conditions, le crâne ne se conserve pas forcément très bien. Parce qu'on imagine très bien que si toutes les alvéoles se conservent mal et donc s'effondrent, c'est tout le crâne en fait qui s'effondre très vite. Donc du coup, c'est pas surprenant que le crâne ne soit pas forcément en bon état. En réalité, contrairement à ce qu'on voit souvent dans les films, par exemple, les fossiles, c'est rarement complet. C'est pas on arrive dans le désert, on souffle sur le sable, le squelette apparaît. Comme par magie. C'est pas ça, la paléontologie, malheureusement. La plupart du temps, les squelettes sont incomplets, voire très incomplets. Donc, en soi, que lui soit pas complet, c'est pas surprenant. Ce qui est dommage, c'est qu'on pensait qu'il était plus que ça.
Comme dans toutes les enquêtes dignes de ce nom, nous allons là où tout a commencé, à Durfort, dans les Cévennes gardoises. En parallèle de cette restauration, le Muséum d'histoire naturelle a lancé un programme scientifique. Il commence par la recherche de la couche géologique d'origine. Nous ne sommes pas sur l'endroit exact de la découverte du mammouth, mais à 50 mètres de là. Un trou de 4 mètres de profondeur a été creusé, dans l'espoir, bien évidemment, d'y faire encore des découvertes. Des os, des végétaux, des pollens, toutes traces qui peuvent aider à mieux décrire l'environnement d'il y a 1 million d'années. Sophie Becherel et Sandrine Malon retrouvent Jean-Jacques Bahin. Il est géochronologue au muséum. En résumé, il est spécialiste de la datation des sols.
Et on essaye d'aller un peu plus profond.
Interception sur France Inter.
J'ai pas vu le gisement originel en face, mais il me semble qu'on est beaucoup plus haut topographiquement, non ?
Ici ?
Non, là-bas ?
Là-bas ? Non, je pense pas.
Parce qu'il est où en fait ? Il est juste à côté de la route.
Il est juste au bord de la route, un tout petit peu en contrebas.
Ah d'accord.
De 1 ou 2 mètres.
Okay.
Je voulais aller prendre un point GPS pour comparer. J'ai pris le point GPS hier ici.
Ouais, j'aimerais bien les voir, moi, à quoi ressemble.
Ouais.
Ça va se décider là-bas.
C'est sur ça qu'on fait chalot.
Ah,
t'as pas de chapeau, Sandrine,
Ah oui. Ouais, il y a 20 cm.
Ouais,
il y a 20 cm, mais t'as bien 20 cm de glaise non, dans laquelle on va s'enfoncer en dessous, c'est facile, quoi.
Non, mais ça arrive, ça. Une fois qu'on est dedans, c'est la journée à être dans l'autre, de toute façon.
Ça, c'est sûr.
Et je pense que là, maintenant, tu vois les lumières. C'est pour ça qu'il fallait faire les photos absolument hier soir. Oui. Hein. C'est impossible de faire les descriptions comme ça. Bon. Ok. Bon, bah écoute, on y va.
Ce que vous aimeriez, c'est trouver éventuellement d'autres faunes que le mammouth ?
Oui. L'idéal, les collègues de Montpellier avaient trouvé une dent de rhinocéros étrusque, par exemple. Donc ça, ça serait l'idéal. Parce que c'est la même faune, mais trouver du mammouth, ça serait un peu illusoire. Ils avaient trouvé des rongeurs aussi. C'est pour ça que Grégoire va tamiser pour essayer de voir s'il y a des rongeurs.
L'idée étant d'avoir une photographie, en fait, de ce paysage des Cévennes à cette époque-là.
Cela... Puis on avait un petit but aussi, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de présence humaine. Parce qu'il y a des hommes à cette époque-là, dans cette région-là. Donc, bon, voilà, on vérifie aussi cet aspect-là des choses.
Mais plutôt alors 700 000 ans que 1 million et demi d'années ?
Eh bien, les Ignans-la-Cèbe, bon, on a des hommes à 900 000 ans, hein, c'est juste à côté de Montpellier, donc c'est pas très loin. Et puis on a la grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin et un site en Catalogne espagnole qui s'appelle Valparadis, où on a des hommes à 1 million. Donc, potentiellement, voilà, on n'est pas. C'est pas impossible de trouver une trace de présence humaine. C'est improbable, mais ça n'est pas impossible. J'y vais.
Faut que je bouge, mais ça, c'est rempli quand même.
Vous voyez que le tamis est très chargé de toutes ces parties noires que vous voyez. Tout ça, ce sont des restes de végétaux, des morceaux d'écorce.
Ça fait rarement plus de quelques millimètres, au mieux un centimètre, hein, vos morceaux, là.
Ouais, c'est le but. Tout le reste, en fait, passe au travers le tamis. Bah, je vois aussi des restes de gastéropodes, des coquilles d'escargots, hein, pour faire simple, qui nous montrent qu'on est... On est dans un milieu lacustre, hein, plutôt. Sinon, c'est que des restes végétaux. Ce qui m'intéresserait de trouver, c'est une dent de mammifère ou éventuellement une vertèbre. Une vertèbre de serpent ou une vertèbre de lézard, mais je vois rien là sur le tamis. La prochaine étape, c'est de mettre ça sur la bâche à sécher. Et avec la chaleur qu'il fait, dans une demi-heure, ça sera sec et ça sera beaucoup plus facile de trier à la loupe. Voilà, on va étendre un petit peu. Bien. Voilà, on va attendre un petit peu et puis dans une demi-heure on regardera ça et puis on mettra ça en boîte et puis ce soir ou au labo à Paris on prendra le temps de regarder ça à la loupe binoculaire et extraire avec notre petite pince les différents articles qu'on trouve.
C'est ça, ça se fait à la pince à épiler là, à ce niveau-là.
Ah oui, on a le nez sur la loupe binoculaire et puis on a notre pince à épiler, nos petites boîtes et on range par boîte.
À ce moment de l'enquête, retrouvons Régis De Bruyne, paléontologue spécialiste des mammouths au Muséum national d'histoire naturelle.
Du côté où le mammouth a été trouvé, on estime qu'on est à proximité immédiate du talus, d'un talus qui borderait en fait le marécage. Et donc effectivement, le squelette complet, il est sans doute le fruit d'une mort rapide de ce mammouth in situ, sans déplacement ultérieur. Généralement, ce qu'on voit en paléontologie, sur ce type de gisement lacustre, c'est qu'on récupère ici un os de cela, enchevêtré avec un os d'une autre bestiole. Enfin, ça, c'est du classique pour nous finalement.
L'un des points clés, c'est la datation, qui est encore assez floue, n'est-ce pas ? Et là, vous êtes venu essayer de réduire la fenêtre.
Oui, la datation est assez floue parce qu'elle elle est potentiellement large. Quelque chose entre 2 millions d'années et 800 000 ans à peu près, ça fait une fenêtre
même pour un paléontologue, déjà pas mal large pour cette période. On espère la resserrer. On a des arguments dans un sens comme dans l'autre. On retrouve des espèces végétales qui semblent être plutôt des espèces reliques qu'on attendrait plutôt dans des temps plus anciens. On trouve aussi une dent de campagnole lacustre qui a été découverte. Ce campagnole-là, il nous dit, a priori, c'est plutôt récent. Entre la faune, la flore, le sédiment. Mais on va rajouter en fait des nouveaux éléments qui n'étaient pas disponibles jusque-là. Le magnétisme naturel du sol, on va utiliser ce qu'on appelle donc le paléomagnétisme. C'est tout bête en fait. Il faut imaginer que dans le sol, il y a des éléments ferriques qui vont réagir au pôle magnétique terrestre. Et donc, ils vont s'orienter en fonction de ce pôle magnétique. Et comme vous le savez sans doute également, ce pôle magnétique a tendance à s'inverser de façon régulière. Et donc, si on peut tracer dans notre colonne de sédiments des éventuelles inversions du pôle magnétique, eh bien, ces inversions de pôle magnétique vont pouvoir nous servir, là encore, à caler dans le temps notre site. Donc, en fait, on est dans une logique où on cherche à accumuler des éléments de preuve d'origines différentes pour resserrer progressivement la fenêtre de l'âge du site.
Moi, je suis le conducteur de l'engin. Je m'appelle Fred et c'est moi qui creuse le trou.
Voilà. C'est pas votre métier de creuser pour trouver des os fossiles?
Ah non, je vais faire ça qu'une fois dans ma vie, je pense. Et je suis d'ici en plus, alors j'en profite. Voilà. Nous, on grandit avec. Quand on est petit, on nous en parle. Un habitant de Durfort qui grandit à Durfort, il sait qu'on a trouvé un mammouth ici. Il peut pas ne pas le savoir. Donc oui, c'est un peu le nôtre, oui.
C'est génial du coup de retrouver des os ce matin.
C'est trop bien. Hier on s'est arrêté parce qu'on commençait à avoir de l'eau dans le trou et on n'avait rien trouvé. Et du coup ils m'ont dit il y a de l'eau, on ne pourra pas aller plus bas, c'est pas la peine et tout. Et moi hier je commençais à dire mais il n'y a peut-être pas beaucoup, en plus elle le godait, si je peux les enlever, il n'y a pas grand chose. Et effectivement quand on est arrivé ce matin, il y avait 20 cm d'eau. J'ai enlevé l'eau avec 3 godets et après on a pu creuser, on a fait quoi, 30 cm de plus ou 40 d'hier. Et là, on est tombé au bon endroit. Donc, ça aurait été dommage d'arrêter.
Donc, si jamais tu vois que je suis coincé en bas, il faudra me récupérer.
Ouais, mais descendre, ça va être.
Descendre ? Non, parce que je peux m'asseoir sur le côté là-bas, tu vois.
Après, rappelle-toi tes bons moments de toboggan. Descendre, ça descend toujours. Hein.
Ah oui, descendre, c'est facile. Remonter.
Non, remonter sera plus compliqué.
C'est pas toujours ça. La gadou.
Entre tes pieds aussi, t'avais un truc foncé là.
Où ça?
Un petit.
Ici là?
Non, plus au milieu de tes talons.
Ouais, mais tu vois, c'est tellement imbibé d'eau,
ouais,
que ça part en.
Même si ça serait des os?
Bah, les os, non, ils vont résister eux.
Ouais, c'est la partie végétale.
Ouais. C'est pour ça que je regarde avec la truelle.
Ouais.
Et si j'entends le cri, tu vois, le cri d'un truc dur.
Ouais, ça va t'alerter.
Voilà.
Il n'a jamais été question d'avoir.
Attends,
encore de l'homme.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Vertèbre de mammouth.
On arrête tout.
Je comprends pas. L'homme est plus intéressant que le mammouth.
On parlera des sociétés paléolithiques, mais là, quand même, on arrête tout si on tombe sur une vertèbre.
Ouais, on va aller voir, bien sûr.
Énorme, non?
Ouais, oui, c'est énorme. Ouais. Ouais, non, c'est. Enfin, là, c'est incroyable quand même. On a retrouvé le niveau, quoi. Ça donne un peu de frisson.
Tu peux transmettre à Cécile là-bas ou juste à quelqu'un qui. Cécile?
Oui.
Vertèbre de mammouth, attends. Vertèbre de mammouth, godet, du coup, ça c'est fin du godet 2, début du godet 3, ça va être ça.
Ouais, ça va être le 3, ça va. Ouais.
Donc, godet 3, vertèbre de mammouth.
Il faut qu'il vérifie, il doit avoir les morceaux dans le 2 aussi, du coup.
Et avec. Ah oui, non, plutôt dans le 2 alors.
Tu vois, attends. Régis, quand je te dis qu'il faut creuser encore.
Ah, purée!
Une côte ou un?
Côte ou vertèbre?
Attends.
Est-ce que je pourrais avoir une deuxième truelle? Faudra tamiser, hein, ça.
Ouais, c'est une côte.
Une côte, hein.
Ouais.
Attends, celui-là.
Elle va en dessous.
Ouais. À tout moment, elle est entière.
Entier, c'est difficile à dire. Les côtes, c'est rarement entier. Hein.
Ouais.
Surtout une côte de mammouth, oui, ça peut faire un mètre de long.
Mais cette partie-là est pas
cassée. Ouais.
Donc, c'est un vrai cimetière d'éléphants, alors,
ça a l'air, hein. Ah, un cimetière de bestioles. D'éléphants, pas que, mais.
Ouais, c'est impressionnant. Du coup, ça commence à faire du monde de retrouver ici.
Emportés par leur enthousiasme, les chercheurs se trompent. Après une petite analyse attentive, cette vertèbre s'avérera être celle d'un cervidé et la côte, celle d'un hippopotame. La faune de l'époque, mais aussi la flore, peut aider à dater plus précisément l'époque à laquelle a vécu ce grand mammouth méridional. Vincent Le Breton est palynologue au muséum, autrement dit un spécialiste de l'environnement végétal d'il y a plusieurs millions d'années.
Ce qui caractérise ces périodes anciennes, c'est le début d'alternances climatiques, de périodes glaciaires très froides, qui vont s'enchaîner avec des périodes de réchauffement, qu'on appelle les interglaciaires. On est en milieu méditerranéen, ce que l'on sait c'est qu'il n'y a pas encore quand même une végétation méditerranéenne très très développée, en tout cas elle n'est pas comparable à l'actuelle, ça c'est certain.
Donc pas d'olivier, pas de chêne vert par exemple ?
Du chêne vert, de l'olivier, assez peu, voire pas, dans l'état des connaissances. Du chêne, mais feuillu, donc caducifolié. Également des aulnes, on s'attend à les trouver, et c'est normal, hein, on est dans un milieu un peu marécageux, donc sur les berges d'un marécage, on s'attend à trouver de l'aulne, du zelkova. C'est un des arbres hérités d'un passé tropical de la végétation européenne.
Est-ce qu'il y avait du pin ici ?
Oui. Oui, d'ailleurs, on a pu voir sortir un petit cône de conifères là ce matin. Donc, c'est du pin maritime qui était identifié.
Donc, il y a à la fois cette photographie des temps anciens et cette datation qui sont les deux informations clés que vous recherchez.
Ouais, oui. C'était vraiment de préciser le cadre environnemental et chronologique du mammouth de Durfort. Décrire l'environnement végétal de toute cette faune, venir le caler précisément, chronologiquement, c'est un peu l'ambition de ce tout premier projet.
Et tout à l'heure, vous disiez, donc là, c'est une zone marécageuse, humide, où, naturellement, les animaux venaient.
C'est comme ça que ça a été interprété, la présence de tous ces animaux. Surtout le fait qu'on a retrouvé vraiment des accumulations de plusieurs individus. Il y a 4 ou 5 mammouths qui ont été trouvés sur le site à l'origine, de l'autre côté de la route, et tout enchevêtré. Donc, en fait, ça laisse à penser une zone d'enlisement. Ce qui a été donné comme explication, et c'est vrai que c'est la plus logique, c'est que peut-être ces mammouths ou ces grandes faunes glissaient sur les calcaires là du Crétacé inférieur, qui forment comme une falaise, et glissaient, arrivaient en bas dans ce marécage et s'y enlisaient. Et puis voilà.
Pouvaient plus ressortir.
Pouvaient plus ressortir. Ouais.
D'accord.
Moi, je suis Elisabeth Vauclard et je suis nîmoise d'origine, mais ma grand-mère maternelle était durfortoise. Et donc, c'est grâce à ma grand-mère que voilà, j'ai abouti à Durfort.
On est ici chez vous. Vous diriez qu'il y a une mammouth mania à Durfort ?
Ah, complètement, oui, complètement. Le club du troisième âge, la route et la route du mammouth, le club de vélo également. Nous avons un bar, le repère du mammouth. Le mammouth est avec nous, oui.
Et vous, pour quelles raisons vous vous y intéressez particulièrement ?
Parce que c'est fascinant, bien sûr, un mammouth, et parce que j'ai eu, et je suis toujours en recherche de fossiles, je suis passionnée de paléontologie et d'archéologie, et donc c'est la raison pour laquelle je me suis toujours consacrée à ce mammouth, essayer de trouver des documents d'époque et retracer cette histoire extraordinaire.
Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des choses en votre possession ? Comment vous avez procédé ?
Ah non, j'ai pas de spécimen ou d'échantillon de mammouth. Non, ça non. C'est mais bon, voilà. Moi, j'ai toujours cherché des fossiles. Bah, c'est une région qui est riche en fossiles. Et voilà quoi. J'ai les articles des journaux de l'époque. Tout ce qui a. Je voulais remettre ce mammouth dans le contexte de l'époque. C'était mon intention.
Vous pouvez rappeler, Cécile Collin, dans quelles circonstances on découvre à l'époque ce mammouth en 1869?
Donc, Ollier de Marichard et Casalis de Fondousse vont fouiller sur une grotte à Durfort qu'on appelle la grotte des morts, qui est une grotte où il y a des vestiges archéologiques. Ils arrivent en diligence de Anduze et du haut de la diligence, Casalis de Fondousse croit voir des débris de dents d'éléphants. Il est surpris parce qu'il se dit, mais il ne peut pas y avoir d'éléphant ici, c'est étrange. Donc il rebrouche chemin à pied et de fait, sur un tas de remblais au bord de la route, il y a des morceaux de dents d'éléphant. Il se renseigne, il va voir les cantonniers, il demande d'où viennent ces remblais. Le cantonnier les emmène à l'endroit, il est en train d'élargir une route et il lui montre aussi des segments circulaires que le cantonnier a pris pour des tuyaux d'eau archéologiques. Et en fait, ça s'avère être des défenses de mammouths. Le lendemain, ils commencent la fouille et ils trouvent les défenses, un crâne, les deux vertèbres cervicales les plus proches du crâne. Et c'est le début de la grande histoire de la découverte du mammouth.
Est-ce qu'on retrouve ce récit-là, Elisabeth Vauclair, dans la presse? Vous dites, j'ai les articles de l'époque. Est-ce que très vite, on sait que c'est quand même un spécimen très gros et emblématique?
Oui, tout de suite. Et c'est absolument extraordinaire. Et la population se mobilise autour de ça pour essayer de le garder dans la région. Mais oui, il y a une grosse mobilisation autour de ça. Et il semble d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de curieux qui sont venus également. Oui.
Aujourd'hui, vous prenez part là, à cette enquête qui avance pas à pas. On vous sent aussi excité que les scientifiques?
Ah oui, peut-être plus, mais c'est beaucoup d'honneur. Et je vis un rêve éveillé, vraiment, c'est extraordinaire. Il y avait un morceau de l'histoire qui m'échappait, et aujourd'hui, ça prend tout son sens. Oui. C'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux.
Le mammouth de Durfort, un géant fossile restauré, c'était un reportage de Sophie Becherel, notre spécialiste science à la rédaction de France Inter. Johanna Gabric, Sandrine Malon et Gilles Gallinaro l'ont accompagné à la prise de son. Jérôme Chélius a réalisé cette émission avec l'assistance de Martine Messonnier, mixage Julien Douminc. Cette émission est déjà à la réécoute sur le site de France Inter.